prophète William Marion Branham, intitulé « Le puissant conquérant ». Ce message est précédé d'un article intitulé « Avez-vous peur du cancer ?» Avez-vous peur du cancer? Les docteurs ne peuvent pas le guérir, mais un ange envoyé par le Seigneur a donné au frère Branham un remède infaillible qui guérira tout malade. Écoutez les paroles de l'ange. Si tu peux amener les gens à croire, rien ne résistera à ta prière, pas même le cancer. Pendant les 3 années où j'ai sillonné le pays avec les réunions de frère Branham, j'ai remarqué que le cancer était la maladie la plus souvent guérie par le ministère de frère Branham. Beaucoup plus de malades du cancer sont guéris par le ministère de frère Branham que de malades atteints d'autres maladies. J'en suis très heureux, car le cancer étend ses ravages de plus en plus, et jusqu'à présent, les médecins n'ont trouvé aucun remède pour le guérir. Beaucoup de personnes qui sont appelées à joindre le rang de la prière paraissent fortes et en bonne santé, et on ne penserait jamais qu'elles aient besoin d'une carte de prière, alors que d'autres, assis dans des chaises roulantes ou étendus sur des civières, ne sont pas appelés. Mais je ne l'ai jamais vu faillir, alors qu'elles étaient debout devant l'ange du Seigneur. On comprenait que l'ombre sombre de la mort suivait ces personnes et que le cancer prenait leur vie. Vraiment, le Seigneur est bon envers ceux qui devraient bientôt mourir, de les guider volontairement vers une délivrance complète. Cher ami, si vous êtes atteint du cancer ou si vous en avez peur, souvenez-vous qu'il existe une guérison donnée par Dieu. La peur d'un mal nous fait souvent tomber dans ce mal, quelle que soit la nature de ce mal. La parole de Dieu nous dit de ne pas avoir peur, de ne pas craindre ou de ne pas nous attarder à de telles pensées. J'ai lu récemment dans le magazine Life un article remarquable sur le cancer. Le médecin disait comment les gens craignent le cancer à la suite de troubles cardiaques et d'arthritisme qui sont beaucoup plus douloureux. Il pensait que la peur du cancer pesait si lourdement sur le peuple américain que c'était pour cela que tant de gens en étaient frappés. Ils en avaient tellement peur que cela affectait leur système nerveux et leur causait des troubles de toutes sortes. Certainement, si un médecin peut conclure que la peur est une force occulte derrière le cancer, nous, en tant que chrétiens, devrions comprendre d'autant mieux que nous ne devrions pas avoir peur, mais louer le Seigneur pour sa bonté et sa clémence, et reposer nos esprits dans la confiance et l'amour des bienfaits de Dieu. Je partage avec vous les images et les témoignages dans le Herald of Faith, pour vous aider à voir la réussite du plan de Dieu pour votre délivrance. Écrivez librement à ces gens et demandez-leur des renseignements sur leur guérison. Ils seront heureux de vous écrire. La constatation du nombre d'années pendant lesquelles ils ont été gratifiés de vivre et à ne pas mourir vous donnera du courage. Louez Dieu pour les œuvres qu'il accomplit par l'intermédiaire de son serviteur, frère Branham. Puissiez-vous connaître quelqu'un qui souffre de ce mal, être un témoin pour lui et lui dire les choses que Dieu a faites et fait encore pour les autres. Il y a 4 ans que le frère Branham, poussé par le Saint-Esprit, est entré dans l'hôpital municipal de Phoenix et a prié pour Vilma Baggy, qui mourait de tuberculose. Vilma Baggy vit et a été guérie par la puissance de Dieu qui a rendu la vie à des cellules mortes. Mais ce n'était que le début des bénédictions que Dieu allait répandre sur Vilma Baggy. Peu de temps après, son mari fut atteint d'un cancer à l'estomac et était dans un état désespéré. Un peu plus tard, des douleurs dans la poitrine révélèrent un cancer qui s'étendit dans tout son corps. L'avenir de Vilma était sans aucun doute très sombre, et pourtant la maladie frappa encore plus fort. Sa petite fille de 6 ans tomba malade et dut être examinée très sérieusement. Les médecins dirent: votre fille est atteinte de leucémie et ne pourra pas vivre très longtemps. Une mère, un père et une fille, tous frappés de maladies graves. Puis, il y a 2 ans, frère Branham vint à Phoenix et Vilma Baggy, très malade, vint à la Réunion et vint devant lui à l'appel de sa carte de prière. Ce soir-là, frère Branham lui parla de sa maladie et de celle de sa fille et aussi de celle de son mari. Dieu répandit sur eux ses bénédictions du ciel et ils furent guéris tous les trois. Il y a très peu de temps, j'ai eu la très grande joie de parler à Vilma Baggy et à sa petite fille. Elles resplendissaient toutes deux de santé et elle me dit que son mari était également complètement guéri. Écrivez-lui, elle sera heureuse de vous dire comment elle a reçu la prière du prophète de Dieu et comment elle a été guérie. Son adresse est Madame Vilma Baggy, 1407 Sud 21 Place Phoenix, Arizona. Voici maintenant l'histoire de Hattie Waldrop, 1701 Est Glendale Avenue, Phoenix, Arizona, telle qu'elle me l'a racontée. Elle m'a rempli le cœur de foi et de courage, et je veux que vous la connaissiez. En la lisant, votre cœur aura la paix et une sensation de victoire. Je veux vous saluer au nom de notre Seigneur et vous parler de ma guérison survenue il y a 10 ans, alors que j'assistais, couché, mourant, sur une civière à une réunion de frère Branham. Je fais cet effort pour aider tous ceux qui souffrent du cancer. Pendant 26 ans, j'avais souffert par intermittence d'une douleur dans le côté droit, juste au-dessus de la hanche. En 1957, je commençais à avoir des périodes pendant lesquelles je ne pouvais conserver aucune nourriture, pas même de l'eau. Plus tard, j'ai eu des périodes pendant lesquelles je n'arrivais pas à me rassasier et mangeais tout le temps. Un jour, je vis une publicité dans le journal local faite par certains docteurs de la ville offrant de vous examiner au rayon X pour la modique somme de $5, soit 25 francs. Mon mari me dit d'aller le voir, que peut-être il pourrait découvrir la maladie dont je souffrais. Donc, le lundi suivant, j'étais chez le docteur pour me faire examiner. Le docteur ne fut pas du tout satisfait de ce qu'il vit et demanda à mon mari de venir de bonne heure le lendemain matin. Le matin suivant, nous vînmes à 10 heures et le docteur nous dit que j'avais une grave entérite et qu'il pensait pouvoir me guérir en 6 séances. Nous fûmes d'accord. Le traitement consistait à faire circuler pendant 1 heure de l'eau à une température légèrement supérieure à celle du corps dans le côlon et quelquefois pendant plus longtemps. Vers la fin de la 2e semaine, je m'évanouis sur la table, et quand le docteur et l'infirmière me ranimèrent, je demandais « Ai-je un cancer ?» Le docteur répondit « Oui, ma pauvre dame, pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour vous faire soigner ?» Quand le docteur découvrit ceci, il me fit un autre examen au rayon X, et l'examen montra que le sommet droit de mon côlon tenait comme par des fils. Il demanda qu'un autre docteur vienne m'examiner, mais je refusais, car j'avais peur qu'il m'emmène à l'hôpital, et je ne voulais pas y aller. Il me dit alors qu'il y avait des médecins en ville qui pourraient m'opérer et m'enlever la partie inférieure de mon estomac, mais que je mourrais d'ici 20 jours. Je n'avais rien à faire que de rentrer chez moi et attendre. J'allais de mal en pis, et je devais prendre des pilules pour soulager la douleur qui augmentait de jour en jour. Mais, ô merci Seigneur Jésus, et aussi aux saints qui ont prié avec moi et pour moi pendant ces sombres jours si douloureux, comme ils sont restés à mon côté et restés avec moi pendant des nuits, pendant que j'étais si bas. Le docteur augmenta la dose des pilules calmantes jusqu'à ce que mon cœur commence à réagir aux effets du violent narcotique. Puis j'ai dû prendre des remèdes pour le cœur et pour réagir contre l'empoisonnement. Un dimanche matin, une sœur en notre Seigneur vint dans notre petite maison. Elle m'appela « Ma » comme tout le monde m'appelait à l'église. Elle m'apprit la nouvelle que frère Branham venait en ville et me dit le don de guérison que Dieu lui avait donné et comment il priait pour les malades. Elle dit « Il vient Phoenix, Ma, et je sais que tu vas être guéri. Je t'en prie, tiens bon encore 11 jours jusqu'à ce qu'il soit là. » Ce sont les propres paroles de mon amie. Le docteur avait dit à mon mari que la prochaine attaque grave serait fatale et qu'il s'y prépare. Je le savais. Après 11 longs jours, frère Branham commença ses réunions dans l'église de frère Outlaw. La première réunion fut le 2 mars 1947 et la petite église était tellement bourrée qu'il dut transférer la réunion à un endroit plus vaste. Je suis allé à la réunion dimanche soir, mais il y avait tellement de gens devant moi qui avaient besoin de prière que je n'ai pas été appelé. Le lendemain soir, ce fut la même chose. Mes frères Branham dit qu'il prierait pour les malades mardi matin à 10 heures. De bonne heure, le mardi matin, je rangeais des affaires dans la cuisine et une voix me dit « Cours pour ta vie ». J'appelai une sœur qui avait passé la nuit avec nous et je lui dis « Nous devons nous dépêcher » et nous partîmes en courant pour l'église. Dans mon état, je ne pouvais courir longtemps et Jésus-Christ le savait, car alors que nous quittions la cour, un autre frère et une sœur en notre Seigneur nous conduisirent en hâte à l'église. Vers 8h30, nous entrions dans l'église et frère Outland me salua et me dit « Allez directement au premier rang, sœur Waldrop, je veux que l'on prie d'abord pour vous ce matin. » Je me hâtai vers le premier rang sans rien dire. Alors que j'étais assise là, un huissier vint vers moi et me demanda si j'étais aveugle. Je lui répondis que je ne l'étais pas. Alors il s'excusa et me dit que je devais reculer de 4 rangs, car les 4 premiers rangs étaient réservés aux aveugles. Pendant qu'il parlait, je sentais le cancer me torturer l'estomac. Après le départ de l'huissier, j'essayais, mais en vain, de changer de place. Il revint et me trouva haletant. Je lui dis « Emmenez-moi dans la pièce du fond. »« Je regrette, sœur, dit-il, mais je ne peux pas. » Je murmurais « Allez chercher frère Outlove » et je le repoussais. Frère Outlove et d'autres sœurs vinrent vers moi et me dirent « Vous êtes simplement nerveuse, sœur Waldrop. Nous prierons pour vous. » Alors la sœur qui était venue avec moi intervint et dit « Non, ceci n'est pas de la nervosité, mais la mort. » À ce moment, frère Hooper et sœur McDaniel s'avancèrent et dirent à frère Outlove que c'était très sérieux et que si frère Branham était là, il ferait bien d'aller le chercher très vite. Frère Outlove demanda à quelqu'un d'aller chercher une civière et quelqu'un d'autre courut dans la pièce du fond pour avertir frère Branham. J'entendais tout ce que l'on disait, mais je ne pouvais pas parler et tout devenait de plus en plus sombre. Frère Branham arriva très vite et alla vers le micro et dit à tout le monde d'être très recueilli, car une sœur était en train de mourir du cancer. Puis, frère Branham se tourna vers moi en disant « Regardez-moi, sœur !» Ces paroles n'étaient qu'un bas murmure confus pour moi, mais il les répéta jusqu'à ce que les épaisses ténèbres disparurent. Puis il me demanda si je croyais que l'ange était venu à lui. Je ne pouvais pas parler, mais il sentit que je le croyais. Alors il dit « Remerciez Dieu, sœur !» Votre foi vous a sauvé. La première fois qu'il a prié, je n'ai rien ressenti. Puis quand il recommença à prier, une sensation de chaleur m'envahit. Elle partait de ma tête, elle s'étendait à l'extérieur et à l'intérieur, et toute douleur quitta mon corps. Je me levai de la civière. Frère Branham me dit que dans 72 heures, je souffrirai beaucoup et serai très malade quand le cancer abandonnerait mon corps. Il dit que le cancer était mort jusque dans ses moindres racines. Il me dit aussi d'observer une diète liquide comme le docteur me l'avait conseillé et que Jésus-Christ me ferait savoir quand je pourrais manger de la nourriture solide. Il me dit qu'une bouchée de nourriture solide me tuerait. Pendant 72 heures, j'ai souffert terriblement jusqu'à ce que je ne puisse plus pleurer. J'essayais d'appeler mon mari qui dormait, mais la douleur était si forte que je ne pouvais pas parler. Aussi, je me traînais vers lui pour lui demander de prier pour que j'aie la force de supporter la douleur. Puis la douleur me laissait pendant quelques heures et je pouvais me reposer. Cela dura pendant 4 ou 6 semaines, mais la douleur diminuait tout le temps. Finalement, j'appelais le docteur et lui demandais s'il voulait examiner mon estomac au rayon X et il me dit oui. Les rayons X révélèrent que tout était en parfait état. Mon cœur, qui avait grossi à cause des poisons que j'avais absorbés, était normal, et les calculs aussi gros que l'ongle du pouce qui était dans mon foie étaient partis. Ce soir-là, pour dîner, je pris des haricots, de l'oignon, des cornichons, du bœuf rôti et de la marmelade de pommes. Je devais passer au rayon X le lendemain, mais Jésus-Christ m'avait dit que je pouvais manger, et je le fis. Ceci se passait il y a 10 ans, et aujourd'hui, tout est encore parfaitement guéri. Si vous avez un cancer et que l'on prie pour vous et que la douleur continue, continuez simplement à louer le Seigneur pour qu'il vous guérisse. Le démon essayera d'empêcher votre guérison, mais continuer à louer Jésus-Christ et à espérer. À l'époque de ma guérison, mon petit-fils de 6 ans, pour la guérison de qui on avait aussi prié, fut guéri d'un goitre. Martin a aujourd'hui 16 ans, il est parfaitement guéri. Si vous croyez que Dieu vous guérira, je vous conseille de m'écrire, et c'est avec joie que je vous encouragerai par tous les moyens en mon pouvoir. Le témoignage suivant est celui de Madame Laura Walker, pasteur à Essel, Michigan. Il y a 6 ans, je mourais d'un cancer aux intestins. Mes intestins étaient insensibles et paraissaient morts. Même à certains moments, la partie inférieure de l'abdomen était comme de la pierre et froide à l'intérieur et à l'extérieur. Je ne pouvais pas me passer de lavement. Le gonflement et la souffrance étaient si violents que certains jours, plusieurs lavements étaient nécessaires pour me soulager. En août 1951, Frère Branham faisait une réunion à Erie, Pennsylvanie. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Va à cette réunion et je te guérirai ». À l'époque, nous habitions à Port Huron, Michigan, qui était à plusieurs centaines de miles. Il me paraissait impossible d'y aller, mais le Seigneur m'a fourni le moyen et la force d'y aller. À cette époque, Frère Branham utilisait le signe dans sa main. Il me dit que j'avais un cancer, puis pria pour moi. Alors, il se tourna vers moi et me dit, « Ma fille, ta foi t'a guéri. » Sur le moment, je n'ai ressenti aucun changement spécial, mais environ 1 heure plus tard, j'ai senti quelque chose en dedans de moi qui se décrochait et tombait. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, j'ai été parfaitement normal. Loué soit mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Beaucoup de références médicales peuvent être fournies concernant ma guérison. Avez-vous pensé à vous comme à un serviteur de Dieu? Ou avez-vous désiré pouvoir imposer les mains aux malades? Ou aviez-vous une flamme dans votre cœur pour prêcher la parole du Seigneur? Peut-être aujourd'hui désirez-vous faire quelque chose pour votre Seigneur que vous servez. Vous pouvez ne pas répandre l'Évangile à travers le monde, ou posséder la prière de la foi pour délivrer les gens en esclavage de maladies. Vous pouvez ne pas avoir de don, ou ne jamais manifester un don spirituel tel que guérir, faire des miracles ou prophétiser, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire, et Dieu vous a demandé de le faire. Peut-être l'avez-vous négligé, mais il y a une tâche pour chacun de vous dans la parole de Dieu. Vous pourriez être un ange de miséricorde et de grâce pour une âme égarée. Vous pourriez être le messager d'une bonne nouvelle. Vous pourriez jouer un rôle primordial dans la vie de quelqu'un d'autre, ce qui serait la plus grande bénédiction mentionnée dans aucun livre. Dans quelques instants, je vous raconterai l'histoire véritable d'une telle personne, un ange de miséricorde et de grâce. Ce pourrait être vous, dans le rôle le plus important de votre vie, être un de ces témoins et annoncer la bonne nouvelle. Notre histoire commence avec Madame Eckenburg. Elle avait dit au revoir à son mari et avait pris un bus. Son mari ne pouvait pas l'accompagner dans ce déplacement, car cela l'aurait tenu trop longtemps éloigné de son travail et entraîné à des dépenses au-dessus de leurs moyens. Monsieur et Madame Eckenburg sont un couple de 50 ans. Ils ont un intérieur modeste et mènent la vie simple que leurs revenus leur permettent, mais ils ont vécu ensemble une vie merveilleuse, partageant leur joie à travers les années. Ce sont des gens comme beaucoup d'autres qui ont dû travailler pour gagner leur vie, très souvent dure, quelquefois plus facile. Le bus l'a menée à destination d'un endroit qu'elle ne connaissait pas. C'était peu de temps après sa première maladie, pour laquelle elle avait été soignée à la Stanford University à San Francisco. C'est là qu'en juin 1955, elle devint une malade expérimentale. Monsieur et Madame Eckenburg avaient choisi cette université parce qu'ils n'avaient pas les moyens de supporter les dépenses pour d'autres traitements ou d'autres médecins. Là, tous les traitements étaient gratuits pour les indigents et elle était soignée par les meilleurs docteurs. Elle était inscrite comme malade expérimentale. Cela signifiait que vous guérissiez pendant qu'eux ils apprenaient. Sinon, eh bien, avec peu d'argent, c'était la meilleure solution et leur seul espoir. C'était sa troisième tentative pour se faire soigner. Dans son cas, il n'y avait pas d'opération possible, car les docteurs lui avaient déjà dit que le cancer était trop profondément enraciné et avait attaqué le foie et d'autres organes de son corps. Quand ils avaient voulu l'opérer précédemment, elle s'était arrangée pour dire non, elle ne le voulait pas. Ainsi, son rendez-vous suivant était en janvier, peu de temps après les premiers jours de l'année. Madame Eckenburg annula ce rendez-vous apparemment sans raison. Et quand son troisième rendez-vous fut fixé, elle partit aussitôt car elle comprit que la douleur dans son corps et le développement rapide du cancer ne lui donnaient pas le choix. Pour ce rendez-vous, elle emmena avec elle une petite valise qu'elle enregistra pour le dépôt du bus à San Francisco. Elle avait son billet et peu de monnaie dans son porte-monnaie. Elle avait dit à son mari qu'elle n'aurait pas besoin de beaucoup d'argent, car elle allait directement au dépôt des autobus et de là à l'université. Son mari devait aller la chercher dans leur voiture à sa sortie de l'hôpital. On était le 18 octobre et les docteurs devaient commencer l'expérience le lendemain. Elle pensait sans cesse à ce que feraient les médecins et à ce que ferait sa famille si elle mourait pendant l'expérience. Elle pensa aussi à Dieu, mais comme elle n'était pas croyante, elle n'était même pas baptisée, cette pensée ne faisait que l'effleurer. Mais pour avoir quand même un guide chrétien, elle décida de prendre son petit livre de prière avec elle. Elle le lirait de temps en temps quand elle penserait trop intensément à son avenir. De bonne heure, le matin du 19 octobre, le bus entra à Oakland, Californie, où il s'arrêta 10 minutes avant de continuer jusqu'à San Francisco de l'autre côté de la baie. À l'arrêt de l'autobus, tous les passagers descendirent, mais Madame Eckenburg, fatiguée du voyage, resta à sa place. Elle serait bientôt à San Francisco où elle descendrait. Soudain, Madame Eckenburg entendit une voix lui dire « Va dans la rue et marche !» avec une telle insistance qu'elle obéit aussitôt. Pendant qu'elle marchait sans but, elle entendit la voix lui dire « Arrête-toi à la 14e rue !» À la 14e rue, elle se sentit très fatiguée. Elle s'arrêta assez longtemps pour remarquer un café de l'autre côté de la rue. Elle entra dans ce café, le café Foster, et prit une tasse de café, et après quelques minutes, elle ressortit dans la rue. Après avoir un peu marché, elle se sentit de nouveau fatiguée et s'appuya contre le mur d'une maison pour se reposer. C'est alors qu'elle vit une dame assise sur un banc d'arrêt d'autobus, attendant le passage de l'autobus local. Elle s'arrêta un court instant, puis décida d'aller s'asseoir sur le banc. En s'asseyant, elle remarqua que la dame à côté d'elle lisait un livre. Elle pensa qu'elle aussi pourrait lire son petit livre de prière pour se réconforter. La scène est extrêmement simple. Simplement deux dames assises sur un banc et lisant chacune un livre. Elles étaient complètement étrangères l'une à l'autre, mais elles ne le restèrent pas longtemps. Dieu avait conduit Madame Eckenburg vers un ange de miséricorde et de grâce, porteur de bonnes nouvelles. Il l'avait conduite depuis le dépôt des autobus, et maintenant il l'avait fait asseoir à côté d'une autre dame qu'il avait choisie pour la bonne nouvelle de l'Évangile et pour prendre soin d'elle. Elles avaient engagé la conversation en très peu de temps. Elles échangèrent quelques remarques, et bientôt Madame Eckenburg racontait à cette dame qu'elle ne connaissait pas sa maladie et où elle allait. La dame lui dit « Regardez le livre que je suis en train de lire. Un homme envoyé de Dieu. Cet homme est ici à Oakland et commence ses réunions ce soir. Il priera pour vous. Beaucoup de personnes sont guéries du cancer. » Madame Eckenburg regarda étrangement la femme pendant un moment, ne sachant quoi penser. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait jamais pensé à la guérison divine, ni que de telles choses puissent arriver. Sa nouvelle amie interrompit ses pensées par des récits passionnants sur Dieu, répandant sa miséricorde et sa guérison sur l'humanité souffrante. Madame Eckenburg n'avait jamais entendu de paroles aussi édifiantes. Elles versèrent la paix dans son cœur. Elle fut réconfortée et aussi encouragée. Elle n'avait jusqu'alors jamais entendu quelqu'un parler de la sorte, ni dire des choses aussi importantes et aussi extraordinaires. Ses pensées furent de nouveau interrompues par une invitation directe de la dame disant « Venez vous reposer chez moi. Ce soir, je vous emmènerai à la réunion. J'habite juste en face. Madame Eckenburg et la dame traversèrent la rue et entrèrent à l'hôtel, et la dame prit une chambre juste en face de la sienne pour Madame Eckenburg. Quand la chambre fut retenue et qu'elle fut installée, Madame Eckenburg décida de se reposer un moment et alla s'étendre dans sa chambre. Elle commença à penser à ce que la femme lui avait dit, et pour la première fois de sa vie, Madame Eckenburg pensa à la prière. Elle pria longtemps, très longtemps, jusqu'à ce qu'une paix qu'elle n'avait encore jamais ressentie lui remplisse le cœur. Elle passa l'après-midi à prier et à pleurer et en communion avec sa nouvelle amie. Quand l'heure de la réunion arriva, son amie l'emmena au lieu de la réunion, l'auditorium civique à Auckland. En arrivant, son amie l'aida à trouver une place et s'occupa d'elle très gentiment. Peu de temps après, Billy Paul Branham lui demanda si elle voulait une carte de prière. Elle répondit « Oui » et le remercia. Bientôt, le service commença par un sermon, et Madame Eckenburg n'en avait jamais entendu de pareil dans sa vie. Il la fit pleurer et la remplit de crainte. Elle n'avait jamais été traitée aussi gentiment qu'elle l'était aujourd'hui. Elle n'avait jamais entendu des choses aussi merveilleuses. Et maintenant, sa carte de prière fut appelée. Elle allait se tenir devant cet homme de Dieu. Pendant que l'on priait pour les 14 personnes avant elle et que d'autres étaient appelés dans l'assistance, elle savait que cet homme allait lui révéler ce qu'elle et les docteurs ignoraient. Rose Eckenburg resta quelques instants devant le révérend William Branham. Il lui dit qu'elle était dans l'ombre de la mort et qu'elle avait un cancer du foie et lui demanda si elle croyait que Dieu la guérirait s'il priait pour elle. Sa réponse fut oui. Elle éclata en sanglots. Le lendemain 20 octobre 1956, à 7 heures du matin, Rose Eckenburg rejetait de son corps de gros morceaux de chair corrompus et de sang très infecté. La semaine suivante, le 24 octobre 1956, à 11 heures du matin, elle rejeta une grosse tumeur indurée et d'autres déchets. Ensuite, une hémorragie normale débarrassa son sang de toute corruption et de toute odeur. Mes amis, aujourd'hui, Madame Rose Eckenburg vit. Elle est une vraie convertie au Seigneur Jésus-Christ. C'est véritablement une bénédiction de Dieu. Mais rappelez-vous où cela a commencé pour notre sœur Eckenburg, sur un banc d'autobus, où elle a rencontré un messager et un témoin des heureuses nouvelles de l'Évangile. Dans une ville de 5 millions d'habitants, Dieu la conduisit vers une inconnue. Vous auriez pu être cet étranger, cher ami. La prochaine fois que vous serez seul, sur un banc d'autobus, ou dans votre voiture, ou dans la rue, ou dans un café, où que ce soit, vous pouvez avoir dans votre cœur et sur les lèvres des mots qui peuvent apporter la vie aux mourants, à l'humanité chancelante et désespérée. Donc, souvenez-vous de témoigner et rappelez-vous que l'ange de miséricorde et de grâce, cela peut être vous-même. À la suite de cet article, écrit par un serviteur de Dieu qui accompagnait Frère Branham pendant ses services, voici un message de Frère Branham lui-même. Ce message s'intitule « Le puissant conquérant, le puissant vainqueur ». Ce soir, je veux lire dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 6, les deux premiers versets. « Et je vis que l'agneau avait ouvert un des sept sceaux, et j'entendis un des quatre animaux disant comme d'une voix de tonnerre, « Viens et vois !» Et je vis, c'était un cheval blanc, celui qui montait avait un arc, on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur pour vaincre. Mon sujet pour quelques instants ce soir sera le puissant vainqueur. Je crois de tout mon cœur que l'enlèvement viendra avant la grande tribulation. Maintenant, il y a beaucoup de théologiens qui ne seront pas d'accord là-dessus, mais je n'ai pas d'instruction. Et j'ai simplement étudié la Bible, et souvent sur des feuilles tapées à la machine, et combien les textes tapés à la machine sont imparfaits. Et si nous comprenons les imperfections de quelque chose, alors nous avons une idée générale de ce que la vérité peut être. C'est comme le déluge à l'époque de Noé. Il n'était pas tombé une goutte d'eau jusqu'à ce que Noé et tous ceux qui voulaient échapper au déluge
fût-ce à l'intérieur de l'arche et la porte fermée. Et nous voyons à qu'avant qu'un morceau de feu tombe du ciel sur Sodome et Gomorre, Lot devait quitter la ville et ne pas subir le châtiment qui devait frapper ces villes, car le juge intègre ne voulait pas punir le juste avec l'injuste, parce que le croyant a déjà été jugé quand le Christ a été jugé à sa place. En conséquence, il serait injuste qu'un Dieu saint juge de nouveau l'un d'entre nous après avoir déjà accepté notre jugement en Jésus-Christ. Maintenant, venons à notre sujet, le puissant conquérant, le puissant vainqueur. L'homme aime conquérir, et c'est une grande chose que de conquérir. Un conquérant, un vainqueur, c'est celui qui a vaincu son ennemi. C'est la raison, je crois, pour laquelle l'Écriture dit « Nous sommes plus que des vainqueurs, car il a vaincu pour nous ». Et les hommes, dans ces temps héroïques, quand ils avançaient et remportaient la victoire, ils avaient souvent ensuite de grandes fêtes. On nous dit que lorsque le dernier chef allemand, Adolf Hitler, conquit la France, il s'installa à l'Arc de Triomphe et regarda sa grande armée défiler avec ses tanks et ses avions qui obscurcissaient le ciel. Mais cela ne dura pas, parce que si un homme est vainqueur, son but doit être juste. Et si vous ne jouez pas franc jeu, vous perdrez, aussi grand vainqueur puissiez-vous être. Vous devez être honnête pour être vainqueur. Aucun tricheur n'a jamais gagné. Mais Hitler n'a jamais respecté les lois. Il voulait toute la puissance et le pouvoir pour lui, toute la gloire pour lui. Donc son objectif était mauvais. Et aucun homme ayant le même but et les mêmes façons qu'Hitler ne pouvait finir autrement qu'il ne l'a fait. On nous dit que le grand Constantin, se dirigeant vers Rome, fit un rêve juste avant la bataille. Ce soir-là, avant de s'endormir, il était inquiet sur l'issue de la bataille qu'il allait livrer le lendemain matin. Cette nuit-là, il vit en rêve une croix blanche et une voix lui dit « Par ce signe, tu vaincras ». Alors, il réunit ses soldats dans la nuit et ils peignirent une croix blanche sur leur bouclier et il remporta la victoire. Maintenant, je pense à un autre homme. Il y a quelques années, j'étais à Waterloo, en Belgique, où un homme nommé Napoléon rencontra la défaite dans le sang et le déshonneur. Pendant que j'étais là, quelqu'un me tendit un petit livre, et je commençais à lire l'histoire de ce grand homme. Il commença par être un grand capitaine, et il avait conquis le monde entier à l'âge de 33 ans. Mais lui aussi poursuivait un mauvais idéal. Il voulait le pouvoir, la puissance pour lui seul, et il voulait que tout le monde le craigne. Alors qu'il avait 33 ans, Napoléon faisait trembler le monde entier. C'était un mauvais homme, un meurtrier. Au début de sa carrière, il était anti-alcoolique et il est mort alcoolique. Vous ne pouvez pas vaincre par le mal. Seul le droit peut être vainqueur. Vous ne vaincrez jamais en bâtissant une dénomination au-dessus d'une autre. Vous ne pourrez jamais vaincre qu'en abaissant les barrières. Et en laissant le glorieux Saint-Esprit pénétrer dans le corps entier de Christ, nous ne vaincrons jamais avec des buts égoïstes. Dieu déteste le péché. Il ne laissera jamais triompher le mal. Napoléon, le conquérant du monde, mourut à 33 ans et le péché l'avait conquis. Mais oh, il y eut un autre homme qui mourut à l'âge de 33 ans, qui conquit le monde, et conquit l'enfer, et conquit la mort, et triompha de tous les ennemis de la race humaine. Ce fut notre Seigneur Jésus-Christ, le puissant vainqueur. Il n'est pas venu conquérir pour lui-même. Son but fut de faire la volonté de Dieu qui l'avait envoyé. Il ne combattit pas pour lui-même. Il s'est donné. Sur la croix, il a dit, « Je pourrais appeler mon Père, et aussitôt il m'enverrait des légions d'anges. » Mais il vint pour vaincre pour la race déchue d'Adam. Il a vaincu tous les ennemis de la race déchue d'Adam. Il les a écrasés sous ses pieds. Je vois le puissant vainqueur, notre Seigneur Jésus, quand il était là, debout, à côté de l'homme qui était lié et enchaîné par la puissance du démon. Aucune armée ne pouvait vaincre sa puissance. Et souvent il brisait les chaînes. Personne ne pouvait le vaincre. Et les mauvais esprits le firent sortir de l'humanité, et il s'installa dans les tombeaux, et il subjuguait quiconque passait sur son chemin. Mais un jour, un petit homme vint sur cette route, la Bible dit, Il était la beauté même. Et ce démon pensa, voici l'heure où je vais vaincre ce petit homme. Et ils possédèrent l'homme, et ils allèrent sur la route pour le rencontrer. Et quand ils coururent vers lui pour le vaincre, il leva les yeux, et ils changèrent de ton. Au lieu d'essayer de l'abattre, ils dirent, toi, l'unique saint de Dieu, pourquoi viens-tu nous tourmenter avant que les temps soient révolus? Ils savaient qu'ils avaient rencontré leur maître. Le puissant grand conquérant vainqueur du ciel était là présent. Il n'était pas physiquement assez grand pour briser les chaînes. Il n'était pas physiquement capable de retenir un homme qui était possédé du démon. Mais en lui, il y avait la puissance du Dieu Tout-Puissant devant qui les démons doivent s'incliner. Et il vainquit cet ennemi que par la suite la race d'Adam, qui était asservie à cet esprit, a eu le privilège de prendre le nom de ce grand puissant conquérant et de chasser cet esprit. Je le vois, notre puissant conquérant, alors qu'il entre dans la chambre de la belle-mère de Pierre, couché, malade d'une fièvre, il ne dit pas un mot. Il se dirige simplement vers le lit. Il touche sa main et sa maladie fut vaincue. Il a vaincu la maladie pour la race d'Adam. Un jour, quand son très cher ami mourut et qu'il était à 4 jours de marche de là, quand il arriva, les vers rongeaient déjà le corps et la main qu'il avait serrée et les épaules qu'il avait étreintes étaient maintenant vaincues par la corruption et la mort. Je le vois, debout, à côté de Lazare, ses yeux pleins de larmes, quand il dit « Lazare, sors !» Et la corruption abandonna sa victime, et la mort rendit l'âme de l'homme, car le puissant conquérant avait parlé. Ceci, il a pu le faire pour tous les enfants d'Adam. Je suis si heureux qu'il soit aussi mon ami, car quelquefois, si Jésus tarde, c'est comme cela que nous serons tous. Une nuit, alors qu'il traversait la mer, les puissants éléments de la terre se déchaînèrent. Il se reposait à l'arrière d'un petit bateau, alors que les vents devinrent violents et démontèrent la mer. Bientôt le petit bateau fut plein d'eau, et les disciples avaient très peur. Ils se hâtèrent de l'éveiller. Quand il s'éveilla, il les gronda, leur disant, « Ô vous, hommes de peu de foi, où est votre foi ?» En d'autres termes, vous m'avez vu faire toutes ces choses jour après jour. Vous avez vu le fou délivré et libéré. Vous avez vu votre belle-mère délivrée de la fièvre. Vous avez vu les morts ressuscités. Où est votre foi? Alors, il mit le pied sur le bord du bateau et levant les yeux, il dit, paix, calmez-vous. Et toutes les vagues se turent comme un bébé dans les bras de sa mère. Les vents et les flots lui obéirent. De l'autre côté du lac, là où ils allaient, vivait une petite femme qui avait dépensé tout son argent pour être guérie et qui souffrait encore d'une hémorragie. Les docteurs qui avaient pris son argent avaient tout fait loyalement pour la soulager, mais l'hémorragie continuait. Elle apprit que Jésus venait aussi. Elle partit pour la plage, traversant la foule avec peine jusqu'à épuisement. Dans sa foi, elle voulait simplement toucher le bord de son vêtement. Elle le fit. Au moment où elle toucha le puissant conquérant, la maladie qui avait défié les remèdes des médecins obéit à la volonté du puissant vainqueur, et l'hémorragie cessa. Souvenez-vous, quand la mort frappa la maison de Jaïrus, sa petite fille de 12 ans était très malade. Ils allèrent demander à Jésus de venir. Alors qu'ils approchaient de la maison de Jaïrus, les messagers les rencontrèrent et dirent, « Ne dérange pas le maître, car la fille est déjà morte. Tout est fini maintenant. » Nous sommes comme cela quelquefois. Nous pensons qu'il n'y a aucun espoir, mais il est toujours le puissant conquérant. Quand il n'y a plus d'espoir, il est toujours le même. Certainement, il pensait que tout était fini, mais les yeux du Seigneur se tournèrent vers Jaïrus et il dit, « Ne crains point, crois seulement, et tu verras la gloire de Dieu. » Et Jésus entra dans la chambre mortuaire, où seule la limite du temps pouvait révéler le départ de la petite fille de Jaïrus, mais comprenez bien que le commencement et la fin se tenaient à côté d'elle. Il la prit par la main. Il dit, « Jeune fille, lève-toi !» Et la mort fut vaincue. Elle se leva, elle vécut. Le plus grand ennemi que l'homme ait jamais eu est la mort. Tous les hommes. Et il est monté au calvaire un jour. Et là, sur la croix, il a apporté une fois pour toutes
la victoire pour toute l'humanité. Il a vaincu le plus grand ennemi que l'homme ait jamais eu. Il a vaincu la mort pour nous tous. Puis, quand il est mort, ce ne fut pas la fin. Il avait encore à devenir le puissant vainqueur. Aussi la Bible dit qu'il alla évangéliser ceux qui étaient en prison, ceux qui avaient rejeté le message d'Enoch et de Noé, et ceux de Sodome, et ceux qui avaient rejeté les prophètes. Il leur témoigna qu'il était la réponse à chaque message de chaque prophète, le puissant vainqueur. Mais ils étaient passés entre la mort et la vie. Ils avaient franchi la ligne de séparation. Il n'y avait pas d'espoir pour eux. Il alla dans les régions du démon, des démons, et il les dispersa, et il descendit dans les ténèbres les plus profondes de l'enfer, toujours vivant, bien que son corps fût immobile sous la croix. Il était encore le grand et le puissant vainqueur, et 1900 ans après, il est toujours encore le puissant vainqueur, et il sera pour toujours le puissant vainqueur. Quand il atteignit les portes même de l'enfer, là, nous allons imaginer un petit peu la scène, je vois le diable sortir et dire, « Ah, tu es enfin là, tu as fini par arriver. Je n'ai jamais cessé d'essayer de détruire cette semence. J'ai pensé t'avoir vaincu quand j'ai tué Abel. J'étais sûr de l'avoir fait quand j'ai détruit les prophètes et quand j'ai fait décapiter Jean. J'étais certain de t'avoir vaincu. Mais maintenant, te voilà, tu es dans mon royaume, tu es sous ma domination, tu es en mon pouvoir et tu es mort en pécheur. Oh, j'entends Jésus répondre, « Satan, je suis le Fils de Dieu, né d'une vierge, mon sang est encore humide sur la croix. J'ai accompli tout ce qu'il fallait pour racheter la race déchue d'Adam, et je suis descendu ici pour vaincre et pour commander. » Il s'approcha du diable, il saisit les clés de la mort et de l'enfer, les accrocha à son propre côté, et d'un coup de pied, il envoya le diable aux abîmes auxquels il appartenait. Toujours le puissant vainqueur, il revint sur la terre, triomphant de la mort et de l'enfer, pour remporter la victoire sur le tombeau. Mais alors qu'il remontait, il entendit chanter des hymnes, et il sut qu'il s'approchait des portes du paradis, où ceux qui étaient attentifs au message de Noé, ceux qui étaient attentifs au message des prophètes, attendaient, parce qu'ils ne pouvaient pas monter. Une brume de péché recouvrait la terre, et le sang des taureaux et des boucs et des brebis ne pouvait pas racheter les humains. En conséquence, on les gardait dans un endroit appelé paradis. Il y avait une brume de péché au-dessus de la terre. Il ne pouvait pas monter. Lui seul le pouvait, qui était descendu. Il monta jusqu'à la porte du paradis, et il y frappa légèrement. Le père Abraham ouvrit la porte, et resta muet de surprise pendant quelques secondes. Puis il cria, « Sarah, viens ici un instant. N'est-ce pas lui pour qui tu as fait cuire des gâteaux? N'est-ce pas lui qui s'est assis sous le chêne ce jour-là? » Sarah dit, « C'est lui qui tournait le dos à la tente et qui a vu mes pensées alors que je riais tout bas quand il a dit que j'aurais un enfant dans ma vieillesse. » Jésus parla et dit, « Enfant, je suis venu vous prendre maintenant. J'ai vaincu cette horrible chose appelée le péché. » Et à ce moment, un homme vint derrière Abraham. Et alors que cet homme regardait attentivement par-dessus l'épaule d'Abraham, lui aussi resta muet de surprise. C'était le prophète Daniel. Et il cria, « C'est la pierre que j'ai vue se détacher toute seule de la montagne et qui devait détruire le royaume du monde. » Alors un autre homme s'avança. C'était le prophète Ézéchiel. Et quand il vit Jésus, il dit, « C'était la roue au milieu de la roue que j'ai vue s'élever haut dans l'air. » Chacun l'avait vue sous la forme dans laquelle il l'avait prêchée. Alors, trois hommes arrivèrent en courant et passèrent rapidement devant Abraham pour voir le Seigneur. C'était Shadrach, Meshach et Abednego, et ils crièrent et sanglotèrent criant, « C'est là l'homme qui était à côté de nous, dans la fournaise ardente, dans laquelle Nabuchodonosor nous avait jetés. » Oh, mes amis, ce soir, nous l'avons chanté, nous l'avons loué, nous avons raconté son histoire à presque toute la terre. Mais que sera-ce quand nous le verrons comme la rose de Saron, le lys de la vallée, le plus beau parmi 10 000 pour notre âme, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le roi de gloire. Et le Seigneur leur dit, suivez-moi. Et il partit avec tous les saints de l'Ancien Testament vers la terre supérieure, lui les conduisant, avec son vêtement trempé dans son propre sang. il les conduisit dans les lieux célestes. Béni soit son nom. Il a déchiré le brouillard de l'enfer qui entourait la terre, jusqu'à ce qu'il ait découpé un espace dans le ciel, pour que par cette ouverture, tous les enfants perdus d'Adam puissent prier pour la victoire. Il a conquis les atmosphères, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer et la tombe. Et il s'est levé triomphant au-delà des étoiles les plus hautes, au-delà de la lune et du soleil. Il s'est élevé avec les saints de l'Ancien Testament. Oh, quel magnifique cortège cela doit-il être avec un vrai vainqueur, un vrai conquérant. Après quelque temps, ils arrivèrent en vue de cette glorieuse ville, et Abraham dit à Sarah, « Viens ici, ma chérie. » Elle appela Isaac, Isaac appela Jacob, Jacob appela Joseph. Et lorsqu'ils arrivèrent près d'Abraham, il dit, « C'est celle-là la ville que j'ai vue, et que Dieu a construite et a faite. J'ai parcouru la terre, cherchant cette ville et ne la trouvant jamais. Mais maintenant nous approchons des grandes portes. Malgré tous les grands hommes qui existèrent, il a fallu le puissant conquérant, le puissant vainqueur, pour vaincre le péché et les conduire à cette ville merveilleuse. La lumière qui venait de l'intérieur de la ville était grande et étincelante. Les portes nacrées, toutes embrasées. Et Jésus-Christ avançait à la tête de tous. Bientôt, tous les anges montèrent au sommet des bâtiments et regardaient la foule en marche en bas. Et alors qu'ils approchaient, les saints de l'Ancien Testament poussèrent un cri puissant, « Ouvrez-vous, portes éternelles, et restez ouvertes, et laissez entrer le roi de gloire, le puissant conquérant. » Les anges répondirent en criant et dirent, « Qui est ce roi de gloire ?» Et les saints de l'Ancien Testament répondirent, « Le Seigneur des armées, puissant dans la bataille. » Et les portes s'ouvrirent, et à la porte, il plaça la vieille croix, pour que chaque homme ou femme qui passerait par cette porte doive s'incliner devant elle et le reconnaisse comme le puissant vainqueur. Et les anges, par milliers et par dizaines de milliers, ils hurlèrent, ils crièrent, ils louèrent le Seigneur comme ce grand guerrier puissant, tenant la captivité captive et distribuant des dons aux hommes. Il descendait la rue de cette grande ville, pas à l'Arc de Triomphe comme Adolf Hitler, non, mais dans les royaumes de la gloire, là où les anges chantent et louent l'étoile du matin, alors qu'il descendait les rues, lui le puissant vainqueur, qui avait vaincu les péchés du monde et faisait avancer les vertueux triomphalement. Ils traversèrent la ville, jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés devant le trône. Là, sur le trône était assis le puissant Jéhovah. Et le Seigneur Jésus, arrivé devant le trône, s'agenouilla et dit, « Père, j'ai accompli cette tâche que tu m'as assignée. J'ai payé la rançon du péché. J'ai les clés de la mort et de l'enfer, et ton ennemi est vaincu. Et voici tes enfants qui ont attendu cette heure patiemment. » Et je vois le Père, alors qu'il dit, « Monte ici sur mon trône, mon fils. Assieds-toi là, jusqu'à ce que je fasse de chacun des ennemis ton marchepied. » Il s'assit là, le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Confiant en sa parole, croyant tout ce qu'il a dit, croyant en lui comme en mon tout, comme en mon souffle, comme en ma vie, comme en tout ce que j'ai ce soir, je m'abandonne complètement à lui, corps, âme, esprit, attendant sa seconde venue dans la gloire. Quand je suis triste, je crois en lui. Quand je suis heureux, je crois en lui. Quand je suis malade, je crois en lui. Et quand je suis perdu, je crois en lui. Quoi qu'il m'arrive, c'est en lui que je veux croire. Je me souviens d'un petit incident qui m'est arrivé il y a quelque temps. Je ne l'ai encore jamais dit en public. J'étais allé chasser dans les montagnes de l'Adirondack. Ma mère est à moitié indienne. J'aime les bois. Vous savez que même ma conversion ne m'en a pas guéri. J'aime les bois et les montagnes. Ce sont ma récréation. Et l'autre jour, je disais à ma femme, « Chérie, Dieu m'a aidé dans tout ce que j'ai jamais fait. Je suis un pauvre pêcheur. Pourtant, j'ai remporté des records nationaux dans des branches où un pêcheur ne s'aventurerait jamais. C'est le Seigneur. J'ai atteint des buts à 600 et 700 mètres, sans raison avec un fusil. Et j'ai atteint le but 33 fois de suite, alors que je suis un tireur médiocre. C'est le Seigneur. Je pensais que j'étais un bûcheron un peu trop bon, que je ne pourrais jamais me perdre. Je venais de me marier et Billy était un petit garçon alors. Sa maman était morte depuis environ 5 ans et j'avais emmené Médas, ma femme, et Billy, mon fils, en revenant des Adirondacks, et nous étions dans un petit hangar, et j'attendais que le garde vienne, et je dis, « Je crois que je vais aller voir si je peux tuer un peu de gibier. Vous, attendez ici, et quand le garde viendra, Médas, il ouvrira la cabine pour vous. » Alors, je les laissai dans le petit hangar, et je partis dans les bois. Je partis à travers les montagnes. J'avais pensé que je connaissais si bien les Adirondacks que j'en connaissais chaque arbre. Mais quand vous arrivez dans un endroit où vous pensez que vous connaissez quelque chose, alors vous ne connaissez rien de ce que vous devriez savoir. Tout en chantant, en chassant, je m'enfonçais de plus en plus dans la forêt, suivant ce sentier puis celui-là. Finalement, je vis le gros renne que je cherchais et je le tuais. Il était de bonne heure, presque l'heure de rentrer, car j'avais promis à Médas que je reviendrais vers 2 heures. Alors j'arrangeais le renne et me dirigeais vers la cabine. En route, je m'aperçus que le brouillard et la neige étaient tombés sur les vallées, mais je continuai à marcher. Enfin, longtemps après, je me retrouvais devant mon renne. Ceci me troubla, mais je repartis, et de nouveau, je me retrouvais devant le renne. Les Indiens appellent cela la marche de la mort. Vous tournez en rond. À ce moment, le vent s'était levé et tout le monde sec dans les montagnes. Quand le brouillard descend, vous pouvez à peine voir votre main devant vous. Et la seule chose à faire est de se mettre à l'abri, de prendre quelque chose à manger si vous pouvez le trouver, et de rester là jusqu'à ce que cela soit terminé. Mais je ne pouvais pas faire cela. J'avais une femme et un bébé dans ces bois, et ils mourraient dans cette tempête. Aussi, je ne pouvais pas le faire. Je devais encore essayer. Et après être allé aussi loin que je pensais que je vais aller, je pensais, « Bon, je suis perdu. » Puis je réfléchis. « Attends une minute, Billy Branham, tu n'es pas perdu. Tu penses simplement que tu l'es. Assieds-toi une minute et reprends tes esprits. » Et comme je commençais à m'asseoir, la neige tombant en rafale et le vent tordant les arbres et les déracinant, je pensais de nouveau à ma femme et au bébé. Médas n'était jamais sorti de la ville de sa vie, sauf pour une promenade à la campagne. Qu'allait-elle faire avec moi perdu dans les montagnes? Elle allait devenir folle, elle mourrait avant le matin, elle et le bébé. Mais je me dis, « Oh, tu es un trop bon bûcheron pour être perdu. Maintenant tu sais que l'instinct te dit de prendre ce chemin parce que tu avais le vent de face en montant la colline et qu'en descendant, il devait être dans ton dos. » Aussi, je me remis en route et ce faisant, quelque chose commença à me parler. « Je suis une aide immédiate en cas de besoin. » Je me dis, « Maintenant je commence à perdre la tête, je crois entendre une voix qui me parle. » Je secouais la tête et me dis, « Allons garçon, remets-toi, avance, tu te diriges certainement vers ton camp. » Mais j'avais tort, je me dirigeais directement vers le Canada, mais je l'ignorais. Et cette voix continua à parler, « Je suis le Seigneur. » Je suis une aide immédiate en cas de besoin. Elle parla de plus en plus profondément en moi, jusqu'à ce que finalement je m'arrête et appuyai mon fusil contre un arbre, je posai ma vieille casquette de chasse par terre, je m'agenouillai et je dis, Seigneur, je ne suis pas un bon bûcheron. Je suis un pauvre homme misérable et perdu. Je ne mérite pas de vivre, mais je t'en prie, aie pitié de ma femme et de mon bébé. Je pensais que je pourrais surmonter n'importe quelle tempête, que j'étais le maître de n'importe quelle forêt. Mais j'ai constaté que je n'étais pas un conquérant, un vainqueur. Et pendant que je priais, je me sentais beaucoup mieux. Je me levais, je repris ma marche. À ce moment, je sentis le puissant vainqueur mettre sa main sur mon épaule. Mais il n'y avait personne là. Mais en me retournant, je vis la tour sur la montagne. Un point de repère qui m'avait toujours guidé dans ces bois. Les gardes et moi avions installé une ligne téléphonique jusqu'à cette tour, et je connaissais bien le chemin le long de cette ligne, puisque j'avais aidé à l'installer. Regardant la tour de nouveau, je compris que sans le savoir, je me dirigeais vers la mort. Mais il est une aide immédiate, en cas de besoin. Qu'était-ce? C'était sa main puissante, écartant la neige, pour que je voie la tour. C'est lui qui avait maîtrisé le vent et les flots pour ses disciples, et maintenant il maîtrisait cette tempête pour moi, apaisant une forte tempête pour un pauvre malheureux comme moi. Je me tournais vers cette tour, conservant une direction constante, la nuit tombait, mais je me maintenais dans la direction de cette tour. Je savais que maintenant j'allais trouver le fil téléphonique qui allait de la tour à la cabine. Et à côté de la cabine, il y avait un hangar où je trouverais ma femme et mon fils. Tout en marchant, je chantais, « J'ai confiance en mon Seigneur, je me fie à sa parole. » Et je pensais, « Oh, si je pouvais seulement sentir ce fil téléphonique !» Et je continuais à marcher, la main en l'air, pour que je puisse sentir le fil si je passais en dessous de lui. J'étais sur le point de perdre espoir, lorsque ma main heurta quelque chose. C'était le fil. Oh, je ne voulais pas détendre le fil. Je jetais mon fusil, enlevais ma casquette, et là, dans la nuit, je pleurais comme un bébé, car je savais que Dieu m'avait aidé, et qu'à l'extrémité du fil, ma femme et le bébé m'attendaient. Je ne quittais pas le fil pendant toute la descente, et retrouvais sain et sauf mes bien-aimés. Oh, frère, un jour où j'étais dans une situation encore pire que celle-là, j'entendis une voix me parler, me dire, « Je suis toujours le puissant vainqueur qui peut te purifier de tous tes péchés. » Et je posais la main sur la puissance du Dieu Tout-Puissant qui me secoua de la tête aux pieds. Je resterai près de lui, car à l'extrémité de cette route, mon Sauveur et mes bien-aimés attendent. Je tiendrai le fil qui conduit de la croix à la gloire, et j'aurai foi en lui jusqu'à ma mort. Car il a vaincu tous mes ennemis, il a vaincu mes maladies, il a vaincu mes péchés, et il m'a fait plus que vainqueur en Jésus-Christ, qui a tout vaincu pour moi. Ô ami pécheur, si tu es perdu, si tu as besoin de prendre sa main qui te mènera à la sécurité, c'est maintenant le moment. Les tempêtes de cette vie te domineront, et tu seras perdu pour toujours. Cherche-le, accroche-toi à lui, pendant que maintenant, nous courbons la tête et que nous prions. Amen.